RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Haïti, où de violentes manifestations ont éclaté en février dernier. Pendant 11 jours, cette mobilisation baptisée Opération Pays Loc, Pays Bloqué, a paralysé l'ensemble des activités économiques et commerciales. À travers tout le pays, des citoyens ont protesté, assiettes vides à la main, contre la corruption et la vie chère. Et pour cause, fin février, le taux d'inflation a passé la barre des 17%, un record en 10 ans. À la flambée des prix s'ajoute la dévaluation de la monnaie nationale, la gourde face au dollar américain. Cette conjoncture économique a de lourdes conséquences sur le quotidien des Haïtiens. Toute la société est affectée. Haïti, quand la vie devient trop chère. Grand reportage de Stéphanie Schuller et Marc Kintoff-Casimir.
Il est 7h du matin, nous sommes au Gonaïve, chef-lieu du département de l'Artibonite.
Moi, c'est Madame Jocelyne.
Je suis Madame Jocelyne.
Et non, monsieur, moi, c'est Hubert Casimir.
Mon mari s'appelle Hubert Casimir. Je vis avec nos deux enfants.
Quel âge ont vos enfants? C'est un garçon et une fille?
Ah oui, garçon et une fille.
Le premier a 11 ans et la deuxième, 9 ans.
9 ans.
Votre mari, lui, il n'est pas avec vous, il est aux États-Unis, n'est-ce pas?
Oui, les États-Unis, mais...
Depuis combien de temps?
Il y a 3 ans.
Oui, parce que les mêmes depuis 3 ans, de mais il n'a pas de papier. Il dépense tout ce qu'il gagne pour payer un avocat. L'actuel président américain mène la vie dure aux immigrants haïtiens. C'est difficile pour ces Haïtiens-là. Parce que, du coup, ils ne peuvent pas soutenir leurs concitoyens ici en Haïti. Moi, j'ai 2 enfants. Je dois payer leur scolarité, le transport, les cours particuliers. Aujourd'hui, ma situation est devenue très compliquée à cause de l'augmentation du coût de la vie. Je ne sais vraiment pas vers quoi se dirige mon pays, Haïti.
Nous parlons comme un pays d'Haïti, au juste à payer.
Jocelyne Casimir embrasse ses enfants avant de quitter sa maison pour se rendre au travail. Devant le portail, son homme à tout faire attache la marchandise sur une brouette à l'aide d'un tendeur élastique. 3 grands matelas de 2 places, Jocelyne Casimir tentera de leur trouver des acheteurs. Traverser le centre-ville et s'engouffrer dans les ruelles étroites du marché en direction de bord de mer, ce n'est pas chose aisée quand il faut pousser une brouette chargée de matelas. Jocelyne Casimir, suivie par l'homme à tout faire, se fraye un chemin à travers les marchandes. Son visage est empreint d'inquiétude. La flambée des prix est devenue sa principale préoccupation.
Par exemple, on prend de la nourriture manger.
Prenons la nourriture, par exemple. Le sac de riz se vendait d'abord à 200 dollars haïtiens. Ensuite, il est passé à 210, puis 215. Et coûte aujourd'hui 320 dollars haïtiens.
320 dollars.
Comme tous les Haïtiens, Jocelyne Casimir compte en gourde, la monnaie nationale, mais aussi en dollars haïtiens. Une entité qui n'existe pas officiellement, mais qui sert la population à simplifier les calculs. Un dollar haïtien est égal 5 gourdes.
Le paquet de spaghettis est passé de 75 à 150 dollars haïtiens. Même chose pour l'huile. Les prix de tous les produits alimentaires ont quasiment doublé. C'est pareil pour le savon. Avant, il coûtait 10 gourdes. Maintenant, il est à 20. Et 2,5 kg de détergent sont passés de 12 à 25 dollars haïtiens. Il n'y a rien qui ne soit pas devenu plus cher.
Pas grand-chose qui va augmenter.
Pierre Poitvin, vous enseignez l'économie à l'Université des Gonaïves. Comment expliquer cette hausse des prix de première nécessité et des denrées de base?
Bon, il y a les denrées de base qui sont de plus en plus rares. Il y a une libéralisation des échanges qui s'est produite dans les années 80 et qui a vu disparaître la production nationale. Et puis, il y a eu cette dépendance de l'extérieur du panier de la ménagère. Donc, on importe pratiquement tout. On importe tout. et on n'a pas assez d'argent.
L'État haïtien affiche un déficit budgétaire record de 26 milliards de gourdes, environ 270 millions d'euros. Pour contrer ce déficit, l'État demande à la Banque centrale d'Haïti d'injecter plus de monnaie dans l'économie. Résultat, la gourde dégringole. Il faut aujourd'hui plus de 85 gourdes pour acheter un dollar américain. En 1986, un dollar américain valait 6 gourdes. La dépréciation de la monnaie nationale et l'inflation galopante qui en résulte, autant de coups durs pour une population dont 25% vivent en situation d'extrême pauvreté, 60% en situation de pauvreté.
Ça a un poids énorme. La famille n'a même pas le choix. Il va y avoir de moins en moins de nourriture sur la table, avec les conséquences que l'on sait en termes de malnutrition. Si on pouvait manger deux fois par jour, on va manger une fois par jour. Donc on sent directement la cherté de la vie. On essaie de tenir une cantine ici et on vend la nourriture à un prix dérisoire, aux environs de 25 gouttes, de 50 gouttes. 50 gouttes maintenant, c'est moins qu'un dollar américain. 85 gouttes, 50 pour un dollar. Mais ces étudiants n'ont pas les moyens pour payer.
C'est un hôpital inauguré il y a de cela 5 années et c'est un don, un cadeau du gouvernement canadien. Suite aux deux cyclones qui ont ravagé la ville.
C'est vous un avez domaine. Combien de capacités ici?
Bon, c'est un hôpital d'une capacité de 200 lits.
L'hôpital public La Providence est situé à l'extérieur de la ville des Gonaïves. C'est un bâtiment ultra-moderne. Une centaine de médecins travaillent ici, avec à leur tête le docteur Jude Renélic, directeur exécutif de l'établissement. En cette matinée, plusieurs dizaines de patients attendent leur tour devant les salles des consultations en urgence. Depuis quelque temps, pourtant, les professionnels de la santé ont constaté une baisse de la fréquentation.
Actuellement, avec la vie chère, les ménages n'ont pas assez de moyens pour payer les soins. On pensait que c'était une négligence de la part des familles. Non. Des fois, ils se sont obligés de rester chez eux pour faire l'automédication. On a l'impression qu'ils veulent fuir les hôpitaux ou les centres de santé par peur des prescriptions, parce qu'ils n'ont pas vraiment de moyens.
Avez-vous constaté en fait une augmentation du coût des médicaments?
Oui, exactement. Ici, à l'hôpital, nous achetons des médicaments pour mettre dans la pharmacie. Tous les laboratoires haïtiens, pendant ces trois derniers mois, ont changé, ont augmenté leur prix. Parce que tout est réglementé selon la hausse du dollar américain. Par exemple, si on prend la vitamine C, sirop, par exemple, et 6 mois avant, c'était à 100 gouttes, maintenant c'est à 135 gouttes. On peut prendre le diclofenac injectable qui vendait avant à 20 gouttes, le flacon, maintenant c'est à 35 gouttes. C'est ça, on a une augmentation vraiment exponentielle des prix des médicaments. Et nous-mêmes qui achètons, nous devons aussi ajuster.
Quelles conséquences sur la vie de la population aurait cette tendance que vous décrivez là?
Bon, il est difficile à la population d'acheter les médicaments qu'on les prescrit au niveau des urgences et même au niveau des salles d'hospitalisation parce que avec la hausse des prix, le peu de moyens dont ils disposent ne peut pas vraiment acheter les médicaments prescrits par les médecins. Avec comme conséquence le retard ou bien l'allongement de la durée du traitement.
L'augmentation du coût de la vie n'affecte pas seulement les couches défavorisées de la société haïtienne. Au deuxième et dernier étage d'un bel immeuble au centre-ville des Gonaïves, maître Yudlin Cherizar-Joseph termine une réunion dans son cabinet avec plusieurs de ses étudiants. Avocat comme son mari et criminologue, elle enseigne aussi le droit à l'université.
De façon très osée, on peut appeler ma classe moyenne, parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un bureau, mais je vis l'augmentation du coût de la vie comme tout le monde. Si je prends ces dernières semaines, le gallon de carburant, le gallon d'essence, la gasoline précisément, se vend à 245 gourdes à la pompe, je l'achète à 1000 gourdes pour faire fonctionner ma voiture, pour faire fonctionner le groupe électrogène pour le bureau. Et là, quand le coût de fonctionnement du bureau, je dirais, est multiplié par 4, et le coût de la vie est multiplié par 2. Une classe moyenne, entre guillemets, si elle existe, c'est une classe qui est en train de s'appauvrir.
Est-ce qu'il y a des budgets sur lesquels vous allez faire du coup plus attention, vous allez restreindre vos dépenses?
Bon, par exemple, le premier budget sur lequel on est obligé d'avoir des restrictions, si on prend par exemple les loisirs, Et là, et finalement, et comment voyager, comment faire du tourisme local.
Mais les loisirs ne sont pas le seul poste de dépense sur lequel maître Yudlin Chérizard-Joseph et son mari doivent se serrer la ceinture.
On aidait la famille, par exemple, la famille élargie, les cousins, les tantes, les cousines. Mais et ces jours-ci, on est obligé encore de mettre des restrictions sur ça et d'aider peut-être les gens qui sont les plus proches. Et là, ça fait souffrir du monde. Du moins, qui, dans le temps, dépendait de vous. Par exemple, dans le temps, je payais les collages pour des petits cousins, des petites cousines. Et c'est très important pour la famille de voir que tous les enfants vont à l'école. Mais quand tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus le faire, ces enfants-là ne vont plus à l'école. Et là, vous voyez toute la conséquence que ça pourrait avoir sur la famille. Donc, la situation d'augmentation de prix qu'il y a dans le pays, il ne faut pas juste voir les produits qui augmentent. C'est comme toute une chaîne. Et quand certains maillons se cassent, là, ça fragilise vraiment toute la société.
À travers tout le pays, les directeurs d'école constatent impuissants les effets de l'actuelle conjoncture économique sur le taux de scolarisation des enfants. À la rentrée de septembre dernier, le collège Lumière, au Gonaïves, comptait 600 élèves. Ils ne sont aujourd'hui plus que 460. Après les vacances de fin d'année, 120 enfants ne sont pas retournés en classe, au grand dam du directeur Philogène Messac.
Il y a des parents qui arrivent à l'école qui nous racontent qu'on ne peut pas maintenir le cours de l'année, car on reçoit le même salaire et le coût de la vie augmente.
Tout comme 80% des écoles en Haïti, le Collège Lumière est un établissement privé. Contrairement à d'autres institutions, la direction de ce collège tente de maintenir des frais scolaires à un niveau abordable. 7500 gourdes, environ 78 euros par an, payables en trois échéances.
Un parent qui ne peut pas posséder, payer pour un enfant 7500 gourdes par an, année. Vous pouvez imaginer à quel niveau de pauvreté se trouvent ces parents-là. Aujourd'hui, il y a une déperdition scolaire de 20% des élèves. Nous constatons ça presque dans toutes les écoles privées. Si au Gonaïve, la situation arrive à ce point, dans les milieux les plus reculés, c'est pire. Pour les parents haïtiens, l'écolage, la scolarité de leurs enfants, c'est très important. Mais les parents, en grande majorité, vivent à la campagne. Donc, pour assurer l'éducation de leur progéniture, les enfants se trouvent dans les grandes villes à la recherche d'une bonne éducation. Eh bien, il y a des jeunes filles qui, à côté de l'école, cherchent à gagner le pain quotidien dans d'autres activités malsaines.
Vous dites en fait les activités malsaines des jeunes filles, lesquelles ?
Très souvent la prostitution. Donc c'est très difficile pour nous autres, comme directeurs d'école, professeurs, essayer d'expliquer aux élèves, partout, il y a la vie chère, mais il faut rester à l'école.
Devant sa petite boutique, Jocelyne Casimir est en train d'emballer un matelas dans une bâche en plastique pour le protéger contre la poussière. Pour la jeune femme, c'est une bonne journée, elle a réussi à vendre. Un fait plutôt rare ces jours-ci. En ce moment, les gens n'ont pas d'argent à dépenser dans l'achat de nouveaux matelas.
Entre eux, pas facile. C'est sorti qui plus qu'entre eux.
Il est plus difficile de gagner de l'argent que de le dépenser. On dépense tous trop d'argent par rapport à nos revenus. Il n'y a pas d'emploi dans ce pays. J'étais obligée de contracter un prêt à la banque pour faire fonctionner une activité commerciale dans la rue. C'est la méthode de tout le monde ici. Chacun se lance dans un petit commerce dans la rue pour répondre aux besoins du foyer.
Et puis juste plus qu'à aider.
Mais avec l'inflation galopante et la dévaluation de la gourde, les affaires, justement, vont plus que mal. Après les violentes manifestations du mois de février contre la vie chère, le gouvernement haïtien avait annoncé une série de mesures. Parmi elles, la baisse du prix du riz. Pour y parvenir, les autorités ont suspendu temporairement les droits de douane sur 60 000 tonnes de riz importées. Au marché communal des Gonaïves, les marchandes font toutes le même constat.
Pour le riz importé, le gouvernement disait qu'il voulait baisser les prix après les manifestations de février dernier. Alors oui, Le prix est passé de 300 à 275 dollars haïtiens par sac. Mais aujourd'hui, ça coûte 320.
Pour le moment, c'est les mêmes qui vendent 320.
Les Haïtiens consomment 45 000 tonnes de riz par mois. Et ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement tente de calmer la colère sociale en voulant baisser le prix du riz importé. À chaque fois, cette mesure est largement décriée par les riziculteurs haïtiens qui dénoncent ses effets néfastes sur la production nationale.
Ici, on est à l'Esther, donc.
Oui, on est au centre-ville. Mais c'est la route conduisant à la deuxième section.
Le pays importe 500 000 tonnes de riz par an, mais n'en produit que 120 000 tonnes. 95% du riz récolté en Haïti vient de la vallée de l'Artibonite. Ici, les agriculteurs, comme Innocent Dormeville, sont très remontés contre l'annonce du gouvernement de vouloir baisser le prix du riz importé.
C'est pas ça, Boulda dit. C'est pour dire non que...
Ce n'est pas ce qu'il devait nous dire. Il devait nous annoncer qu'il va curer les canaux d'irrigation, qu'il mettra des machines agricoles à notre disposition pour labourer les champs, qu'il nous fournira des semences pour qu'on puisse produire notre propre riz. Et quand il baisse le prix pour le riz importé, qu'adviendra-t-il de notre riz? Moi, je déteste le riz importé. Ce qui est important pour moi, c'est mon riz, celui que je produis dans la vallée de l'Artibonite.
Parce qu'il me fait dire dans l'Artibonite, c'est important.
Les riziculteurs nous indiquent le chemin pour nous rendre à l'ODVA, l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite, dont le siège ne se trouve qu'à quelques kilomètres des rizières. Mais finalement, son directeur général, Jocelyn Jean, nous reçoit le lendemain matin à Port-au-Prince, au ministère de l'Agriculture, dont dépend l'organisme.
Haïti vit une situation extrêmement difficile par rapport à la quantité de gens qui souffrent de la question d'alimentation, parce que c'est près de 3 millions de personnes qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Et par rapport à toutes ces manifestations, là, le gouvernement devrait quand même prendre des mesures importantes. La réduction du droit des douanes sur les importations. L'objectif, c'est de diminuer le prix du riz. C'est une mesure qui a quand même des impacts négatifs par rapport à la production du riz. Les agriculteurs vont dire que si on enlève le niveau de taxation, certainement le prix va diminuer. Et ça va influencer le prix du riz au niveau de la vallée de l'Artibonite.
Avez-vous une idée de comment le prix a évolué pour le riz importé depuis que cette mesure a été prise?
Bon, le prix n'a pas baissé par rapport à ce qu'on avait prévu au niveau du gouvernement. Mais certainement, la mesure a quand même un certain impact psychologique sur les consommateurs, vous voyez.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas compris.
Même si on n'arrive pas vraiment à diminuer le prix, quand même, comme on a pris cette mesure, quand on dit au niveau de la radio, on prend une mesure et cette mesure va diminuer le prix, certainement, il va avoir quand même un certain impact, même psychologique, au niveau des ménages.
Depuis la fin du dernier grand mouvement contre la vie chère en février dernier, aucune mobilisation de contestation d'envergure n'a eu lieu en Haïti. Mais le calme ne pourrait être que de courte durée, prévient l'économiste Pierre Poitvien.
Du point de vue économique, la situation devait se dégrader. La goutte devrait continuer sa chute. Il n'y a pas de politique publique qui vraiment peuvent atténuer les graves problèmes sociaux qu'on a dans ce pays. On veut faire d'Haïti la perle des Antilles. Haïti ne pourra pas être une perle si on ne le construit pas. Et cette construction, c'est ça, c'est là le bas blesse. On improvise dans tout. Un pays, ça se gère avec un plan. Il faut qu'il y ait un plan stratégique. Il y a des plans qui sont écrits quelque part dans les tiroirs des ministères, mais on ne les applique pas.
Pourquoi?
Ça, c'est un grave problème. C'est un problème de continuité. On ne veut pas faire ce que l'autre avait essayé de faire, ce que l'autre avait conceptualisé. La colère sociale est là, la faim est là. Maintenant, il y a des murs qui sont dressés un peu partout pour empêcher les gens de grimper. Peut-être que ça peut aider à les contenir. Mais la violence qui pourrait y résulter, difficile de faire une prédiction sur ce qui va arriver dans ce pays dans les 6 prochains mois. Difficile.
C'était Haïti quand la vie devient trop chère, un grand reportage de Stéphanie Schuller et Makintoff Casimir, réalisation Eva Piedel. Un grand merci à Patrick Chérilus et Ronel Paul au Gonaïve.